Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, pour arrêter de se faire exploiter, la faute.
Bon, des gens ont donné de leur sueur, donné de leur santé ou même souvent de leur vie pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez ? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose, parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous. C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est la nuit, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café. Trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler, ouais, les 2h, je suis chômeur, je suis pointé.
Bonsoir, il est 19h03 et vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, et c'est le Canu Info du lundi.
Alors aujourd'hui, plusieurs sujets comme d'habitude. Alors à l'international, on va commencer par revenir sur l'attentat de vendredi en Égypte et recontextualiser un peu la situation de l'Égypte. On ira ensuite voir du côté des publicités Facebook qui ciblent les blancs seulement. Alors j'ai pas suivi le sujet, mais j'espère que c'est bien ça. Nous aurons une intervention à un moment donné de l'émission, mais vous ne saurez pas encore quand exactement ce que c'est. On passera ensuite au national, puisqu'il y a une répression contre des squatteurs sur Vénère avec des gens incarcérés. On ira voir du côté du salon de l'armement Midipol où des instruments de torture y ont été trouvés. On continue avec l'anti-racisme très ouvertement dans le collimateur du gouvernement et notamment de Blanquer. Et on terminera le national avec un point sur les manifs à l'échelle donc nationale contre l'esclavage en Libye.
Et pour l'info locale, on va parler un petit peu des manifs qu'il y a eu ce week-end. Alors à la fois la manif féministe et les manifs contre l'esclavage en Libye. On parlera ensuite des occupations d'écoles par le collectif Jamais sans toi et aussi par la gentrification à la Guillotière qui prend un tournant de plus en plus inquiétant. Et enfin, on accueille Tancrède Ramonet pour son documentaire sur l'histoire de l'anarchisme qui est diffusé ce soir dans quelques minutes à la MJC Mon Plaisir dans le 8e, dans le cadre de Novembre Libertaire et par l'association Tilantia.
Oui, donc dépêchez-vous si vous n'y êtes pas encore.
Éteignez la radio.
Et par la magie et le truchement du direct, vous allez l'entendre dans Radio Canu et après sur place à la MJC Jean Massé. C'est magnifique.
Mon plaisir.
Ah, c'est mon plaisir ce soir.
Oui, ouais. Voilà. Le premier volet avait été diffusé samedi à la MJC Jean Massé.
On va commencer avec, par contre, de très mauvaises nouvelles, puisque vendredi, dans le Sinaï, en Égypte, la mosquée soufie, donc la branche soufie, c'est la branche qui est considérée comme déviante par l'islam le plus rigoriste, dans la mosquée Al-Raouda de Bir al-Abed, au nord-est du pays. Cette mosquée a donc été victime d'une attaque dite terroriste, dite entre guillemets, car l'info réserve des traitements différents selon qu'il s'agit d'un militant néo-nazi ou tout simplement blanc ou non musulman. Dans ce cas, on parle de fusillade ou on a affaire à un criminel d'origine arabe. Excusez-moi. Dans ce cas, on a affaire à une fusillade. Quand on a affaire à un criminel d'origine arabe ou supposé musulman, il s'agit d'un acte qualifié de terroriste. Dans ce cas, dans lequel la excusez-moi.
Non,
tu vas y
arriver,
prends ton temps, calme-toi, c'est bon.
Bois une petite gorgée, ah ouais. Tout va bien aller.
Une petite gorgée.
Et c'est reparti.
Voilà. Dans le cas de la destruction pure et simple d'un pays comme l'Irak, certains oseront parler de guerre pour la démocratie plutôt que terrorisme. Et voilà qu'on se retrouve avec 305 personnes mortes, dont 27 enfants qui ont perdu la vie et 128 blessés. Soit l'attentat le plus sanglant dans l'histoire récente du pays et perpétré par une trentaine d'hommes armés portant la bannière de Daesh. Cet attentat visait très clairement la communauté musulmane, première victime des exactions commises au nom de l'islam. Un imam anonyme s'est confié au New York Times peu après le drame, se disant choqué que le tueur ait pris pour cible un lieu de culte musulman. Pourtant, les attaques terroristes envers la communauté musulmane ne devraient plus surprendre, tant elles sont courantes. Une réalité sur laquelle se sont penchés plusieurs chercheurs, arrivant à la même conclusion, les actes terroristes sont en majorité perpétrés en Orient, et plus particulièrement dans les pays musulmans et non pas en Occident, à contre-courant de l'imaginaire collectif qui prospère depuis le 11 septembre 2001. Les 10 pays les plus touchés dans le monde par le terrorisme en 2016 étaient l'Irak, numéro 1 haut la main, l'Afghanistan, le Nigeria, la Syrie, le Pakistan, le Yémen, la Somalie, l'Inde, la Turquie et enfin la Libye. Les premières victimes sont donc des musulmans et pas seulement lorsqu'ils se trouvent en Orient. En Europe aussi, les mosquées sont la cible d'attaques terroristes meurtrières. Et voilà nos musulmans doublement victimes, à la fois des attentats et à la fois des mesures antiterroristes, là encore au Moyen-Orient comme en Occident. On rajoutera que les attentats qui touchent les musulmans au Moyen-Orient attirent nettement moins l'attention des médias occidentaux. Deux poids, deux mesures qui ne sont pas sans servir les intérêts des états bourgeois, instrumentalisant la situation pour désigner un ennemi intérieur providentiel à l'heure de faire passer les réformes antisociales, restreindre les libertés, réprimer les quartiers populaires et les mouvements sociaux et permettre aux grands industriels de vendre leurs armes.
Alors, on continue sur cet attentat en Égypte, hein, et on va essayer de rappeler deux, trois trucs et recontextualiser un petit peu. Le Sinaï, hein, c'est une région excentrée de l'Égypte, frontalière de Gaza, c'est immense, hein, c'est frontalière de Gaza, de l'État d'Israël et de la Jordanie, et ça a toujours été un enjeu, en tout cas dans le cadre de l'histoire contemporaine, géopolitique, géostratégique, et pour l'Égypte, pour Israël, pour l'Occident, et maintenant pour Daesh. Il y a déjà eu plusieurs attaques ces dernières années, hein, qui ont été commises sur cette zone, en grande partie par Daesh, mais pas uniquement, notamment contre les chrétiens coptes et également contre les jeunes conscrits qui réalisent leur service militaire. Et maintenant, donc, des musulmans considérés comme déviants. Alors ça, l'importance de la péninsule du Sinaï, le maréchal président dictateur Al-Sissi l'a très bien compris, et il a une part de responsabilité particulièrement importante dans la montée en puissance des activités des groupes djihadistes sur cette zone, entre autres. Pour rappel, Al-Sissi, donc, il est arrivé au pouvoir après un coup d'État en 2013 contre le président Mohamed Morsi, issu lui-même des frères musulmans, et investi sur les cendres des révoltes populaires de 2011. Al-Sissi, c'est l'ancien directeur des services de renseignement d'Hosni Moubarak, l'ancien président dictateur de l'Égypte, avant les révoltes de 2011, soutenu de manière totale par la France, l'Union européenne, les États-Unis et Israël, dans le cadre déjà de la lutte antiterroriste, donc officiellement dans ce cadre-là, mais surtout comme défenseur des intérêts spécifiques dans la région des dites puissances occidentales. Al-Sissi, donc aujourd'hui, avec le même soutien sans faille des puissances occidentales, dont un certain Emmanuel Macron, qui l'a reçu fin octobre 2017 et qui s'est refusé à donner des leçons au président Al-Sissi. Tu m'étonnes. Derrière, depuis 2015, l'Égypte a conclu des contrats d'armement avec la France pour plus de 6 milliards d'euros, avec notamment 24 avions Rafale, donc spécial casse dédié à Dassault, une frégate, deux hélicomistral et des missiles, plus une augmentation de 12% des échanges commerciaux. Mais avec toutes ces armes, il fait quoi alors Al-Sissi ? Ben, il lutte contre le terrorisme islamiste, ça officiellement, en faisant régner la terreur sur tout le pays, réprimant tout ce qui peut être assimilé à l'opposition, à commencer par la gauche et l'extrême gauche égyptienne, le mouvement ouvrier, en passant également par les frères musulmans, hein, qui représentent une partie de l'extrême droite fondamentaliste égyptienne, et encore et toujours, la communauté LGBTI, bien sûr, avec enfermement, torture, condamnation ultra sévère. Quant au Sinaï, donc, on y revient, la région est surmilitarisée depuis 2013 et les forces armées égyptiennes y livrent une guerre terrible, évidemment avec énormément d'exactions, de civils tués contre tous ceux suspectés de collaborer avec l'État islamique, toujours officiellement. Et En fait, ce qu'il favorise, hein, c'est le renforcement des groupes djihadistes. Il n'y a pas que lui dans la zone, hein, mais elle est en train de se renforcer considérablement, qui sont souvent issus du crime organisé, des réseaux de contrebande frontalière et, bien sûr, de la pauvreté qui y règne. Alors, l'attentat terrible de vendredi, c'est le triste témoignage de cette réalité. Al-Sisi, il a répondu et promis une réponse brutale, que les forces armées vengeront, je cite, nos martyrs et ramèneront la sécurité et la stabilité avec force très prochainement. Alors, non, les morts de vendredi ne sont pas des martyrs du maréchal Al-Sisi et de son pouvoir autoritaire. Sa politique ultra-répressive depuis sa prise de pouvoir pour bloquer notamment toute dynamique populaire, voire révolutionnaire, est co-responsable de cette guerre civile larvée, tout comme les responsables occidentaux qui le soutiennent.
Et oui, d'ailleurs, la riposte, elle a été faite immédiatement après, puisque des bases djihadistes ont été ciblées quelques heures après l'attaque de la mosquée.
On passe sans transition. Facebook, sans transition, on passe à Facebook, qui laisse passer des pubs discriminantes. Et il s'agit bien, en effet, de pubs ciblées pour les Blancs et les Blancs seulement. C'est l'organisme ProPublica, qui est spécialisé dans le journalisme d'enquête, qui révèle cette information. En fait, en 2016, ils avaient déjà fait une enquête où ils ont prouvé que les publicités sur le logement qui passaient sur Facebook ciblaient en priorité des Blancs. Suite à quoi, Facebook s'est engagé à mettre en place un algorithme qui rejetterait les publicités discriminantes dans les domaines du logement, de l'emploi et des crédits. Dans ces domaines seulement, ils ne sont pas allés jusqu'à remettre en cause le fait que quand t'es une meuf, tu vois principalement des pubs pour du maquillage et des vêtements. Ça remettrait peut-être un peu trop en cause le principe de la publicité. Toujours est-il qu'en 2017, ProPublica a décidé de retester Facebook. Et donc, ils ont acheté des dizaines de publicités sur Facebook avec diverses spécifications. Comme par exemple, de ne pas montrer la publicité aux noirs, aux mères de collégiens, aux personnes qui ont un intérêt pour les rampes pour handicapés. Ne pas les montrer aux juifs, aux expatriés qui viennent d'Argentine ou aux locuteurs espagnols. Toutes ces catégories de personnes, en fait, sont protégées par le Fair Housing Act, soit la loi sur le logement équitable, qui interdit donc toute discrimination de couleur de peau, de religion, de genre, d'handicap, de statut familial ou d'origine.
Ça veut dire qu'on concerne le logement. Si tu as fait des recherches sur l'accessibilité d'un logement, des rampes pour handicapés, tu ne vas pas être ciblé par ces publicités.
Potentiellement, cette publicité ne t'intéresse pas, parce qu'on ne veut pas d'handicapés chez nous.
Waouh. C'est cool.
Et toutes ces publicités que, en théorie, Facebook s'était engagé à ne pas laisser passer, ont été approuvées en moins de 3 minutes. Sauf une qui excluait les personnes qui s'intéressent à l'islam. Et non pas qu'elle, qu'elle ne soit pas passée, c'est juste qu'elle a été approuvée en 22 minutes. Suite à quoi Facebook a déclaré qu'en fait ils s'engageaient surtout à demander à ceux qui achetaient des publicités de eux-mêmes se déclarer comme respectant le Fair Housing Act. Et la vice-présidente de Facebook s'est dit déçue de ne pas avoir respecté les engagements de Facebook, mais que le système fonctionne quand même un peu puisque leur algorithme aurait déjà signalé, mais pas censuré, des millions de publicités discriminantes.
C'est quand même incroyable parce qu'ils sont pourtant premiers sur la censure du moindre, nudité sur leur réseau. Mais,
En tout cas, ils se sont engagés encore une fois à s'améliorer. Et ProPublica précise que le seul changement qu'ils ont remarqué depuis l'année dernière, c'est que quand on décide de limiter la publication des publicités à certaines catégories, la catégorie affinité ethnique a été modifiée pour affinité multiculturelle.
On va passer au national.
Et oui, on va parler de la répression des squats qui, malgré la trêve hivernale, se fait bien violente. Hein. Celles et ceux qui essayent d'échapper à la rue en ouvrant des logements vides sont de plus en plus la cible des keufs et des juges. Alors, on a appris il y a quelques jours qu'à la suite d'une tentative d'ouverture d'un squat en région parisienne, un jeune sans-papiers, Alfidel, a écopé d'une peine d'un an de prison pour tentative de cambriolage, alors même que de l'aveu des propriétaires de ce logement, aucun objet n'a été dérobé. il a reçu une OQTF dans le même temps, donc une libération, est à peu près inenvisageable avant l'audience en appel, puisqu'il y a un risque qu'il essaye de se soustraire à son OQTF.
Oui, parce que bien sûr, il a pris un mandat de dépôt, quoi.
Exactement. Ouais. Donc, il risque de rester bien en taule avant son procès en appel, pour avoir commis le crime de juste vouloir mettre un toit sur sa tête. Alors, vous pouvez lui écrire, et je pense que c'est important de donner son numéro d'écrou. Vous pouvez lui écrire à Alfidel Abakar, A-B-A-K-A-R, numéro d'écrou 99-51-97. Cellule 436, division 3 Nord, centre pénitentiaire de Fresnes, allée des Thuyas, 94261, Fresnes, Cedex. On mettra l'adresse sur le blog du Canu Info. Et dans le même temps, il y a une dizaine de jours, une histoire similaire a conduit 3 potentielles squatteuses dans les geôles de l'État français, qui est toujours aussi enclin à criminaliser la pauvreté qu'il crée lui-même. Elles ont été aperçues à proximité d'une maison inoccupée, dénoncées par ses bien-aimés voisins vigilants, dont je reparlerai tout à l'heure, puis interpellées par les flics. Alors, bien décidées à protéger la propriété des bourgeois, ceux-ci ont placé immédiatement les 3 copines en garde à vue pour tentative de vol par effraction. Elles sont par ailleurs poursuivies pour refus de signalétique parce qu'elles ont refusé de donner leurs empreintes et leur ADN. Elles ont également refusé la comparution immédiate parce qu'on sait à quel point ça donne des procès expéditifs, mais le juge a estimé qu'elles ne présentaient pas des garanties de représentation assez fiables pour être remises en liberté en l'attente de leur procès. Elles sont donc en détention provisoire en l'attente de leur procès. Alors, pour rappel, les garanties de représentation, c'est l'ensemble des documents qui vont permettre à prouver à un juge que vous n'allez pas vous soustraire à votre contrôle judiciaire et à votre procès. Vous n'allez pas partir, vous n'allez pas vous mettre en fuite. Donc, notamment un contrat de travail, un logement. En l'occurrence, elles cherchaient un squat. Donc, a priori, elles n'avaient par exemple pas de logement, je pense. Donc voilà, je rappelle quand même que le logement, c'est un droit fondamental, et tant qu'il y aura des gens à la rue, il y aura des occupations, que ça semble pas prêt de s'arrêter vu les politiques de l'État et son incapacité
qu'il y a des logements vides
à réquisitionner. Et du coup, je crois qu'on a une interruption de séance.
Mais que se passe-t-il?
Immédiatement. Donc normalement, il y a la MJC Mon Plaisir qui est en train de nous écouter tout de suite maintenant. Avant la diffusion du documentaire.
Alors, je suis en multidiffusion avec la MJC Mon Plaisir. Et donc, nous allons lancer la présentation du film, du deuxième volet du documentaire sur l'anarchisme par Tancrède Ramonet, là tout de suite sur Radio Canu et la MJC Mon Plaisir.
Donc, si tu peux nous présenter un peu ton film, Tancrède, et le présenter à l'ensemble des gens qui est venu regarder.
Bonjour,
ce
MJC,
soir à
la MJC Plaisir.
Mon Plaisir.
Bon, ben, bonsoir, la MJC Mon Plaisir.
Et les auditeurs de Radio Canu.
J'espère d'être nombreux. Et les auditeurs de Radio Canu, évidemment. Ce soir, on diffuse le deuxième épisode dans sa version longue du documentaire Ni Dieu ni Maître, qui s'appelle La mémoire des vaincus. On avait diffusé samedi le premier épisode qui s'appelait « La volupté de la destruction » qui racontait la naissance du mouvement anarchiste et l'apparition de ces différents courants, l'individualisme, l'insurrectionnalisme, l'anarcho-syndicalisme. Et ce soir, ce qu'on va pouvoir voir, et les auditeurs de Radio Canu peuvent aussi aller regarder sur le net parce que le film est, je crois, assez librement accessible et facilement trouvable sur le net. Donc ce deuxième épisode qui va de 1911 à 1945 et raconte comment les anarchistes ont été le fer de lance des grandes révolutions du XXe siècle, chose qu'on a souvent oubliée, comment ils ont participé et parfois initié la révolution mexicaine, la première grande révolution sociale du XXe siècle, la révolution russe, la révolution libertaire en Ukraine et la révolution libertaire en Catalogne qui a été cachée sous ce qu'on appelle plus communément la guerre civile en Espagne. Ce documentaire donc raconte à la fois poursuit un petit peu le récit qui était ébauché dans le premier épisode, c'est-à-dire de savoir comment est-ce que les anarchistes, en s'affrontant au pouvoir et à l'État pour essayer de faire triompher leur révolution, se trouvent souvent attaqués ou trahis par ceux qui sont leurs frères ennemis presque depuis l'origine, à savoir les communistes autoritaires, là ici les bolcheviks puis les staliniens, et systématiquement voient leurs efforts révolutionnaires être contrecarrés. Et évidemment, ce deuxième épisode va avec un troisième épisode. Il ne faut pas croire que si le documentaire s'appelle La mémoire des vaincus, l'histoire de l'anarchisme s'arrête là, puisque il va y avoir un troisième épisode que je suis en train de faire et dont je ne sais pas où il se verra. En tout cas, je vous souhaite bonne projection. Et ce que je trouve très intéressant, c'est de voir comment cette histoire qui paraît lointaine, effectivement, avec toutes les informations qu'on a eues ce soir et celles qu'on va encore développer, comment elle résonne encore. Les anarchistes ont été, depuis l'origine, impliqués dans les mouvements des squats, qu'on appelait les départs à la cloche ou à la cloche de bois. Comment, justement, l'invention de terrorisme a été faite pour eux, et l'ensemble des lois antisociales qui s'appelaient à l'époque les lois scélérates, qui étaient des lois contre les anarchistes, ont sévi jusque dans les années 90 et ont été réactivées et améliorées depuis, et sous couvert de lutter contre le terrorisme, servent souvent à criminaliser le mouvement social. Voilà, et ont été parmi les premiers à faire à montrer que derrière la lutte des classes, il y avait aussi d'autres luttes tout aussi importantes, ce qu'aux États-Unis on a appelé la lutte des races, la lutte pour les droits des minorités, de toutes les minorités, et l'anarchisme était aux avant-postes de ces luttes aussi, en montrant qu'elles étaient tout aussi importantes et que toutes ces luttes-là devaient converger. Voilà.
Eh ben, on souhaite une très bonne projection à l'ensemble du public de la MJC Mon Plaisir.
Et lundi prochain, vous écoutez Canu Info.
Et on arrive avec Tancred avant la fin de la projection pour pouvoir discuter avec le public.
Exactement.
Tout à l'heure.
Et avec Jean-Christophe Angot et Daniel Colson.
Donc à tout à l'heure.
Eh ben, on va reprendre notre journal. Hein.
Exactement. On va reprendre une activité normale. Et du coup, voilà, on en était toujours au national. On va parler d'un salon d'armement.
En parlant de répression, on va aller voir du côté du salon Millipol, dont la 20e édition s'est tenue du 21 au 24 novembre à Paris. Et Millipol, c'est l'événement mondial de la sécurité intérieure des États, où les exposants présentent les dernières nouveautés technologiques, mais aussi stratégiques, avec des conférences sur le sujet de la sécurité intérieure des États. Donc le slogan de ce salon, c'est « Relever le défi d'un monde plus sûr ». Un monde plus sûr, mais on se demande bien pour qui, parce qu'il y a quand même des instruments de torture qui sont proposés à la vente, comme l'a rapporté Amnesty International, qui a envoyé des personnes enquêter à ce salon. Et donc un exposant a dû se retirer du salon au quatrième jour, je crois, suite au signalement d'un enquêteur de Amnesty International, puisque son entreprise proposait à la vente des menottes électriques. Donc ce cas a fait polémique, il y a eu beaucoup d'articles dans les journaux à ce sujet, mais en fait il y a énormément d'autres professionnels de la sécurité qui présentent dans leur catalogue tout l'attirail du parfait tortionnaire. Donc matraque à pointe, entraves diverses, fourche anti-émeute, gilet délivrant des décharges électriques, des articles...
C'est pas de la torture ça.
Tous plus illégaux, les uns que les autres.
C'est l'Amnesty International toujours,
c'est exagéré.
Des articles donc tous plus illégaux les uns que les autres et des catalogues...
Tu n'as pas le droit de porter un gilet électrique.
Non, je t'assure.
Alors que c'est coquin.
Wow. On veut pas savoir les pratiques privées des membres de la radio. Donc là,
j'espère qu'ils nous écoutent plus à la MJC Mon Plaisir.
J'espère aussi. Et des catalogues qui appellent clairement à la torture. Donc la directrice de ce salon, nommons-la Muriel Cafantis, a déclaré que les entreprises qui proposaient de tels catalogues, elle les avait sommées de les retirer et leur avait envoyé une petite lettre d'avertissement pour les prévenir que si elles n'obéissaient pas, leur stand serait immédiatement fermé. On est donc super rassurés, puisqu'elle ajoute que quand un exposant s'inscrit, on lui fournit un manuel de l'exposant dans lequel se trouve l'ensemble de la législation française et européenne.
La torture, c'est pas bien.
Tout à fait, avec donc la Convention de Genève.
Et ne vendez pas de drogue sur vos stands non plus.
Et le rapport de 2015 d'Amnesty International. Donc, elle s'inquiète pas trop. Tout participant au salon est censé être conscient de quel type de dispositif serait compatible avec la Convention de Genève, qui concerne donc le domaine du droit international humanitaire en période de conflit armé et qui prohibe notamment la torture, qu'elle soit physique ou morale. Donc Amnesty International va quand même demander l'ouverture d'une enquête pour comprendre comment ces menottes électriques en particulier ont pu franchir les contrôles douaniers et se retrouver à la vente, alors que la loi interdit l'importation et l'exportation d'équipements de torture depuis 2006 au sein de l'Union européenne. On peut noter d'ailleurs que la promotion de ces articles dans ce type d'événement est interdite que depuis très récemment, en décembre 2016, ce qui montre bien que les États et les gouvernements ne sont pas vraiment prêts à respecter eux-mêmes cette convention de Genève quand il s'agit de leur sécurité intérieure et de la répression.
Sans déconner.
Donc... Ouais, il ne faut pas me couper comme ça.
Pardon, excuse-moi.
Donc, on sait bien à quoi servent tous ces articles. Effectivement, c'est des nouvelles technologies pour surveiller les opposants au gouvernement, surveiller les frontières, s'assurer que la sécurité du patronat et des frontières est bien assurée. Et donc... bien que Amnesty International se soit alarmé seulement de ces menottes, on peut dire que c'est vraiment tout le salon en fait qui est consacré à la surveillance électronique, aux armes de force spéciales, aux véhicules blindés anti-émeutes, qui sont utilisés partout dans le monde contre les mouvements sociaux et les manifestations.
Oui, de toute façon, c'est déjà un peu tout des instruments de torture.
On continue au national avec une grosse polémique. Donc le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé à l'Assemblée nationale porter plainte contre l'organisation syndicale Sud Éducation Seine-Saint-Denis pour s'opposer à la tenue d'un stage syndical intitulé « Au croisement des oppressions, où en est-on de l'antiracisme à l'école ?» dans lequel des débats en non-mixité raciale sont prévus. La notion de racisme d'État présente dans le descriptif du stage a d'abord fait jaser dans la fachosphère. Jaser, j'ai réussi à caser le mot jaser.
Bravo.
Alerté, Blanquer veut porter plainte pour diffamation. On remarque quand même que c'est la fachosphère qui commence un petit peu à faire des trucs et puis que c'est récupéré de façon complètement complaisante par le gouvernement. Le ministère de l'Éducation nationale qui condamne notamment deux sessions de stage syndical réservées aux personnes racisées. Pratique de classe, outil pour déconstruire les préjugés de race, de genre et de classe, et un autre qui s'appelle atelier récit d'expérience quand la vie professionnelle pour les enseignants racisés communique en, je cite, condamnant avec la plus grande fermeté ces pratiques qui sont contraires à la Constitution, portent atteinte à la cohésion nationale et mettent gravement en cause l'institution scolaire. Sud Éducation 93 dénonce dans son communiqué l'empressement du ministère à s'indigner d'un combat légitime contre un racisme qui s'immisce pourtant jusque dans les programmes scolaires, voire l'oubli du passé colonial ou l'accent mis sur le regard du colonisateur en histoire. Le communiqué va jusqu'à ironiser, je cite, « Nous nous réjouissons de voir que M. Blanquer saisit à bras le corps la lutte contre les discriminations. Nous espérons donc que les contrôles policiers au faciès pendant les sorties scolaires, le refus de scolarisation d'enfants de migrants, les inégalités de progression de carrière entre femmes et hommes dans l'éducation nationale comme ailleurs cesseront au plus vite et que plus un ou une seule de nos élèves ne dormira à l'hôtel ou dans la rue. » Si Blanquer s'irrissit les pompes à Français de souche et consorts, cette affaire est à rapprocher de la vague de calomnie et le lynchage médiatique qui s'abat sur les représentants de l'antiracisme politique. Donc, antiracisme politique, c'est par rapport à l'antiracisme moral qui est de dire oh, c'est mal le racisme, mais de rien faire. Le racisme systémique, il faut s'y attaquer avec des arguments politiques, avec une lutte organisée, et voilà, c'est ça l'antiracisme politique. Manuel Valls, en tête, qui se rachète une existence politique grâce à ses interventions parmi les plus abjectes depuis bien longtemps sur les gros médias, instrumentalise l'affaire Tariq Ramadan. Le voilà nouveau en selle, porte-parole de l'islamophobie ambiante, voulant faire rendre gorge à l'islamo-gauchiste de ci pour fondre le musulman de là. Mais c'est plus largement que sont attaqués les antiracistes, traités maintenant de racistes pour l'emploi de termes pourtant présents depuis longtemps dans le lexique des sciences sociales, tels que racisé ou blanchité, pour l'exercice de la non-mixité. Si des organisations comme le festival Nyan Sapo ou les personnalités comme la députée Danielle Obono ou la militante du pire Ouya Boutelja sont aux premières loges de cette répression et donc accusé de racisme. Des personnalités blanches comme Edoui Plenel, Edgar Morin ou François Burga sont elles aussi victimes pour avoir tantôt débattu avec Ramadan ou dénoncé des comportements islamophobes systémiques. À droite comme à gauche, on se bouscule hélas pas au portillon pour renforcer les rangs de l'antiracisme et soutenir les militants et militantes syndicales, organisateurs et organisatrices de manifestations non mixtes. Selon le député, ça c'est drôle, selon le député de la France Insoumise Alexis Corbière, la blanchité est un faux problème. Lui-même, l'été, est plus bronzé que beaucoup de personnes nées de l'autre côté de la Méditerranée. La couleur de peau est donc un faux problème. Donc, pour Corbière, une seule solution contre le racisme, l'écran total.
Très belle conclusion. Donc, on enchaîne avec une autre question hein, du racisme. Il y a eu des manifs, donc à l'échelle nationale, des manifestations tout ce week-end hein, contre... l'esclavage en Libye et même au-delà, hein, puisque bon, vous n'êtes pas sans savoir que CNN a sorti un dossier sur cette question-là. Donc, ce week-end, il y a eu des manifs dans trois villes de France et dans certaines d'Europe. Alors, en France, il y en a eu à Paris, à Marseille, et également à Lyon. À chaque fois, ça a regroupé plusieurs centaines de personnes. On n'est pas sur des manifs énormes, mais ça, elles ont le mérite d'exister. Elles étaient composées en majorité des principaux concernés, puisque les slogans qui étaient mis en avant, notamment, c'était « Nous ne sommes pas de la marchandise » et « Stop au pillage de l'Afrique »,« Stop à la traite des Noirs ». Alors, ça a été dit la semaine dernière, l'esclavage, c'est pas une nouveauté en Libye, hein, mais c'est bien que ça se mobilise sur cette question terrible et qu'on n'oublie pas, d'une part, la minimisation des responsabilités occidentales et la négation des racines négrophobes de la Libye. D'ailleurs, sur cette question spécifique, il y aura un dossier dans les semaines à venir, donc on vous invite à toujours écouter Radio Canul lundi soir. Et à Lyon, il y a eu également une manifestation qui était au départ un rassemblement et qui est partie en manif sauvage. Qui a regroupé jusqu'à 200 personnes a priori, qui a réussi à balader les flics. Il n'y a pas eu d'interpellation, donc félicitations aux personnes qui ont participé à cette manifestation. Vous avez bien fait de tenter cette manif. S'il y a d'autres infos...
Non, c'est une magnifique transition vers les infos locales.
Ah mais oui,
bravo.
Mais c'était fait exprès.
Il y a eu aussi une manif féministe ce vendredi à Lyon, donc qui a réuni une grosse. Alors d'abord une manif non mixte qui a réuni une grosse centaine de personnes, puis suivie d'un rassemblement où il y avait une petite cinquantaine de personnes. Voilà pour les infos des manifs du week-end.
Est-ce qu'on devait avoir un copain qui venait nous parler des occupations des écoles?
Oui, est-il là?
Non, parce que sinon je peux faire un truc très factuel.
Vas-y,
mais
oui, bah vas-y. Hein. Au pire,
ils étaient en train de délibérer sur qui prend la parole.
Il vous parlera peut-être un peu plus de ce que c'est le collectif Jamais sans toi, mais de toute façon, les occupations des écoles ont repris cette année depuis depuis une semaine.
On n'a pas d'intervention. L'intervention est repartie.
Ah, donc on n'a pas d'intervention. Vous n'aurez que mes informations.
Nous avons perdu notre témoin.
Donc autant que je vous dise un petit peu ce qu'est le collectif Jamais sans toi, pour rappel, c'est un collectif qui rassemble plusieurs collectifs qui se sont montés au sein d'écoles de Lyon et des alentours de Lyon, puisqu'il y en a aussi à Villeurbanne, à Vaux-en-Velin et peut-être même ailleurs. Ces collectifs cherchent à héberger les familles des élèves de ces écoles qui dorment dehors en fait. Et voilà. Déjà l'année dernière, il y a eu plusieurs occupations et cette année, ça a repris avec l'école Douaneau dans le premier. Le mardi soir, c'est mardi dernier, le 21, l'occupation a repris et voilà, elle avait été décidée. Et après avoir eu la visite d'un inspecteur de l'éducation nationale qui mettait un petit peu la pression aux profs qui soutenaient donc l'occupation et puis de la police nationale, les familles ont pu passer la nuit. Et le lendemain, rebelote, à nouveau réoccupation. Et cette fois-ci, c'est le troisième adjoint au maire du premier arrondissement qui est passé et qui a négocié que les familles soient hébergées pour cette nuit dans la mairie du premier arrondissement, en assurant qu'une solution de logement avait été trouvée à partir du lendemain. Le lendemain, les élèves sont allés en cours et en fait, leur famille s'est retrouvée à la rue. Il n'y avait pas de solution proposée. Et par contre, la police s'est retrouvée devant l'école Douaneau pour empêcher toute nouvelle occupation. Et depuis, tous les jours, à partir de 9h, la police est là. Heureusement, par solidarité, l'école Servet a proposé d'ouvrir ses portes à ces familles qui sont en fait scolarisées à l'école Doineau depuis le 25 octobre. Une autre école aussi vient d'entamer une réoccupation de son gymnase, c'est l'école Victor Hugo, et qui demande des soutiens. Et c'est à peu près tout ce que j'avais.
Ouais. Ben, moi j'étais à l'AG hier, donc, où il y avait vraiment beaucoup de monde qui s'est réuni, c'était à l'école Victor Hugo. Et ben, l'idée ça a été de dire que l'école Servet, Doineau, Hugo et aussi Aubrac, allaient se mobiliser. Ils demandaient, ils ont fait des tracts ce matin pour informer les parents de cette présence policière, pour essayer d'empêcher les familles d'entrer dans les gymnases et de pouvoir dormir au chaud. Donc faut rappeler que c'est des enfants qui sont scolarisés dans ces écoles, et donc d'essayer d'avoir d'abord que les parents qui ne sont pas au courant comprennent, et surtout que au moment des sorties d'école, les parents soient un petit peu solidaires, puissent être là pour essayer de un petit peu détourner l'attention des policiers, pour permettre au collectif de faire rentrer les familles pour qu'elles dorment au chaud. Et puis l'idée c'est aussi d'imposer un rapport de force, parce que le but c'est pas que les familles dorment ad vitam aeternam dans des gymnases, mais qu'elles soient relogées comme l'exige la loi, et que donc ces familles d'enfants scolarisés puissent avoir un toit.
Et du coup, on va peut-être passer directement, vous en avez déjà parlé la semaine dernière, mais j'ai, sur le même sujet, des étudiants de l'université de Bron occupent depuis maintenant 10 jours l'université pour loger des sans-papiers qui avaient été, et des demandeurs d'asile qui avaient été expulsés d'un couloir proche de l'hôtel Athéna à la Part-Dieu. Alors aujourd'hui, il y a deux amphithéâtres qui sont, et des salles de cours du bâtiment H qui abritent une soixantaine de demandeurs d'asile. Donc c'est depuis cette occupation que s'organise un peu la solidarité, mais aussi la contre-offensive face aux organismes de l'État qui sont en charge de l'hébergement. Donc on écoute tout de suite un petit reportage qu'on a réalisé sur place
hier soir. On était quelques étudiants à avoir, et d'autres personnes à avoir assisté à l'expulsion de personnes qui vivaient en fait dans un couloir de l'hôtel Athéna à la Part-Dieu. Donc ces personnes sont pour la plupart demandeurs d'asile. Et donc voilà, il y avait une femme avec deux enfants, enfin il y avait plusieurs femmes dont une avec deux enfants. Donc on s'est dit qu'on allait faire quelque chose, on s'est un peu, enfin on est allé avec des personnes expulsées de la Part-Dieu à une AG étudiante, je crois que c'était il y a une semaine ou deux semaines, et donc voilà, on a parlé de cette situation et on a décidé de continuer un peu là-dessus. On a fait une cantine solidaire qui s'est finie un peu en occupation.
Au départ, quand on était expulsé de la Part-Dieu, on était une quarantaine de personnes. Ben, du coup, aujourd'hui, le nombre s'est accru. On est devenu un peu plus de 20 personnes se sont ajoutées. On va vers 60 personnes maintenant. Et je pense que si rien n'a été fait jusque-là, je pense que dans les jours à venir, peut-être on risque de remplir toute l'université. C'est pas trop joli à voir, parce que c'est un établissement qui est habilité pour le savoir et non pas pour accueillir des demandeurs d'asile, je pense. Ouais.
Tu peux me dire ce que vous êtes en train de faire là?
Ouais, là. Nous sommes en train de faire de la cuisine.
C'est quoi que tu prépares?
Moi, je suis en train de préparer les pâtes sautées.
Et vous cuisinez pour tout le monde? Ouais. Vous mangez tous ensemble?
Ouais, on ne peut pas pour tout le monde. C'est ça qu'on va manger. C'est peut-être pour 10 ou 15 personnes. On ne va pas trop manger, bon, juste pour arrêter le ventre. Ouais, au fait, on tourne pour préparer. Les gens qui ont préparé à midi, bon, c'est une autre équipe qui prépare le soir. C'est pour 10, 15 personnes, puisque c'est pas tout le monde qui mange ce qu'on prépare. Il y a ceux qui n'aiment pas la cuisson. Donc, du coup, il y a les pains, des gâteaux, et ils vont manger. Mais tout le monde pourra manger ici. Se servir un peu.
Et du coup, toi, ça fait combien de temps que tu es ici?
Ça fait pratiquement une semaine. Une semaine et demie que nous sommes au campus. La Part-Dieu, j'ai fait 4 mois là-bas.
Et du coup, pour toi, c'est important d'être ici? Comment ça se passe?
C'est très important, puisque nous les remercions d'abord, l'association étudiante, et puis c'est eux qui nous ont enlevés dans la rue. Du coup, nous sommes vraiment reconnaissants. Du coup, ils nous ont amenés ici. Au moins, la chaleur, c'est pas trop grand, mais au moins, nous sommes à l'abri du froid et tout, qu'on sort. Donc, du coup, nous sommes contents d'être ici.
Moi, je pense que nos revendications sont légitimes. vu la Convention de Genève relative au droit d'asile, qui stipule que tout demandeur d'asile doit avoir un logement. Et donc, j'appelle la responsabilité des gouvernants de nous trouver des logements et de permettre à ces familles qui sont expulsées de la part de Dieu, qui vivent dans les conditions un peu entre griffes, pas trop appropriées, de penser un peu à ces femmes, à ces enfants, à ces mineurs qui traînent ça et là.
Bah, l'occupation, en fait, c'est que ça peut être qu'un point dans une stratégie à plus grande échelle. Et ça permet de s'organiser, on s'organise tous les jours. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des moments comme ça, où en fait, on est tout le temps quand même dans une question de lutte. Même la vie en commun, c'est déjà politique, quoi.
Et voilà, donc comme on l'a entendu, hein, les habitants s'accordent pour dire qu'il faut des solutions de relogement pérennes, hein, que l'occupation ne peut pas durer éternellement, mais elle permet au moins de visibiliser la situation de nombreux sans-papiers et de demandeurs d'asile en France qui ne sont... Enfin, cette situation qui est juste le résultat de la politique impérialiste de la France et l'injustice des politiques migratoires européennes. Donc cette occupation se voit un peu le point de départ d'une lutte plus large sur ces questions, et donc les occupants de l'Amphicé, pardon, appellent à une réunion, à une assemblée. Demain, donc à partir de 19h, il y aura d'abord un repas, puis ensuite une assemblée générale autour des questions de logement et du traitement qui est fait aujourd'hui aux sans-papiers, aux demandeurs d'asile.
Et d'ailleurs, juste, tu disais que cette occupation pouvait pas durer sans fin. En fait, une fois qu'ils sont relogés, l'occupation peut durer sans fin. N'hésitez pas à bloquer la fac le plus possible sur les questions universitaires, bien sûr, mais aussi plus largement. Hein. Surtout, ne vous empêchez pas de continuer.
Et voilà, il est 19h42, nous sommes toujours sur BFM Radio, Radio Canu, et nous allons passer à un dernier sujet local avant l'entretien avec Tancrède Ramonet.
Oui, je voulais d'abord revenir sur un courrier que j'ai eu l'immense horreur de découvrir ce matin dans ma boîte aux lettres.
T'habites où ?
À la Guillotière.
Wow.
La missive invite le Moyen-Âge, donc voilà, je voulais préciser que j'habitais dans ce merveilleux, mais néanmoins déjà très gentrifié quartier de la Guillotière. J'ai toutefois la chance d'habiter dans une rue encore à l'abri des assauts bourgeois. Bref, la missive exhorte donc le voisinage à s'adonner à la délation et tente de constituer un front pour bouter les pauvres et leur saleté et leur sale manie aussi hors du quartier. Donc je lis le début. Chers voisins, depuis quelque temps, nous constatons dans notre quartier une augmentation de différents trafics. Bla, 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 bla.
Alors qu'il n'y a pas de trafic à la Guillotière en plus, c'est bien connu, quoi.
Et ils invitent l'ensemble du voisinage à envoyer un courrier type à destination des adjoints à la tranquillité publique et à la propreté de l'arrondissement, où on est invité à cocher sur une liste. Donc je demande votre intervention qu'à la vie de mon quartier se dégrade pour dépôts sauvages, dégradation de véhicules, dégradation et vol de vélos, trafic de stupéfiants, vol à la roulotte, tapage nocturne, mais aussi urinoir sauvage, consommation d'alcool en lieu public, squatteurs, tag. Donc moi j'invite l'ensemble de mes voisins, il y a aussi on peut cacher la case autre. Donc moi j'ai mis contrôle aux faciès, délation, voisins qui jouent aux flics, harcèlement policier, racisme, augmentation du marché locatif. Enfin, je vous invite à renvoyer ce courrier avec tout un tas de bonnes raisons de trouver que la vie du quartier se dégrade. Alors, au-delà de l'aspect strictement anecdotique de ce courrier, il illustre très bien le phénomène de gentrification dont est victime le quartier, mais aussi le refus dans l'ensemble des bourgeois et des riches de cohabiter avec des pauvres. La Guillotière, ça a toujours été un quartier de pestiférés, hein, au sens strict, puisque avant d'être rattaché à la commune de Lyon, il servait de zone de quarantaine pour les voyageurs qui arrivaient de très loin par la grande rue de la Guillotière, qui avait déjà le même tracé qu'aujourd'hui. Donc la place du pont était remplie d'hospices où étaient mis en quarantaine les voyageurs arrivant sur Lyon. Après le rattachement du quartier à Lyon, donc en 1852, c'est devenu le principal lieu d'arrivée des travailleurs immigrés, mais aussi des travailleurs pauvres de l'agglomération lyonnaise. Et aujourd'hui encore, ce quartier accueille les plus pauvres d'entre nous et les primo arrivants sur le territoire national. Donc c'est bien précisément contre ces pauvres-là, contre ces migrants, que que semble vouloir se mobiliser les bourgeois. Et donc c'est bien à nous de se mobiliser contre ceux-là même qui veulent nous chasser. Et je pense que c'est important de le dire et d'inviter tout le monde à passer à l'offensive contre ceux qui veulent nous expulser de l'endroit où on vit et où on continuera à vivre, et surtout de l'endroit où on continuera à accueillir ceux qui arrivent d'ailleurs et ceux qui sont le plus dans la galère.
Ouais, par contre, pour tapage nocturne, je crois que ça vient de ton appartement.
C'est probablement ton rire qui fait ça.
Oh. Allez, donc, à la suite.
On passe tout de suite.
Bam, bam, bam.
On passe tout de suite au dossier. Donc, comme vous l'avez déjà vu, on accueille, enfin entendu, nous accueillons Tancrède Ramonet pour sa projection de ce soir du deuxième volet de son film Ni Dieu ni Maître. Du coup, merci de nous faire l'honneur de ta présence.
Non, merci à vous de m'accueillir.
Du coup, voilà, nous, on voulait un peu comprendre le projet de ton film. C'est quoi finalement ton but quand tu as commencé à écrire ce film? Et est-ce que tu es dans une démarche militante? Est-ce que pour toi, c'est aussi un travail important politiquement de vulgariser l'histoire révolutionnaire?
Bah, l'idée au départ, c'était d'abord que moi j'éprouvais ce manque, c'est-à-dire que moi en tant que lecteur, que personne intéressée par l'histoire, mais je ne trouvais pas d'histoire de l'anarchisme qui me permettrait ensuite d'aller zoomer ou m'intéresser à des moments ou des périodes ou des personnages précis. Et donc c'est vrai que l'histoire de l'anarchisme a cette chose ardue, c'est que elle est diverse, elle est très éparpillée, et donc c'était difficile de réussir à avoir une vue d'ensemble. Donc voilà, moi je me suis dit, en fait, cette chose qui me manque, j'ai envie de me la fabriquer et en la fabriquant de permettre à d'autres d'en profiter. Voilà, donc de faire une grande histoire de l'anarchisme, d'autant plus que plus je travaillais sur la question, évidemment il y en a d'autres qui l'avaient fait un petit peu avant moi, plus je voyais au sein de ce mouvement dont on dit qu'il est divers, contradictoire, ou sur lesquels il y a des lieux communs, par exemple de dire que ce n'est une histoire qu'occidentale, en réalité il y a une cohérence ou des cohérences, des continuités, et que c'est une histoire mondiale. Et donc voilà, je me suis allé rencontrer un peu les grands historiens de l'histoire de l'anarchisme dans le monde, et avec eux, en les interviewant, en rassemblant des documents, d'essayer de raconter l'ensemble de cette histoire.
Tu peux en citer quelques-uns des historiens?
Alors c'est Gaetano Manfredonia, Frank Mintz, il y a Jean-Christophe Angot, donc qui est... Alors la particularité de ces grands historiens d'ailleurs, et c'est une des grandes particularités de l'anarchisme, c'est que les grands historiens de l'histoire de l'anarchisme n'ont jamais été, d'un point de vue académique, reconnus comme des historiens, c'est-à-dire qu'ils sont tous profs d'autre chose. Où ils ont tous fait autre chose. Gaetano Manfredonia, par exemple, est professeur à la base d'économie, Frank Mintz d'espagnol, Jean-Christophe Angot est de formation de philosophie, est professeur de philosophie. David Graham, Normand Baillargeon au Canada est professeur d'enseignement, enfin je sais plus comment on dit exactement, il enseigne la pédagogie, quoi, etc. Donc c'est assez drôle, puisque en fait il n'y avait pas de reconnaissance, et ce qui explique qu'il n'y ait pas eu d'histoire générale de l'anarchisme, c'est qu'il n'y avait pas, jusqu'à il y a peu, de reconnaissance de l'anarchisme comme sujet d'étude. C'était très méprisé. Hein, et notamment pour les deux raisons qui sont d'ailleurs les mêmes au cœur de cette histoire, c'est-à-dire par l'opposition des pouvoirs, et de l'autre côté une espèce d'historiographie marxiste, enfin d'histoire marxisante triomphante, qui avait les deux intérêts à nier la spécificité de l'histoire de l'anarchisme à l'intérieur de l'histoire du mouvement ouvrier.
Et est-ce que pour toi la connaissance de cette histoire-là, elle est aussi nécessaire aujourd'hui dans les luttes
Voilà. Et alors l'idée, c'était que effectivement que cette histoire, c'était pas pour connaître une histoire méconnue ou sauver réapparaître des figures martyrs, mais c'était vraiment avec, je pense, une vision utilitaire, c'est-à-dire de dire qu'aujourd'hui, on avait besoin de connaître cette histoire-là, parce que les questions qui s'étaient posées au mouvement anarchiste et certaines des réponses qu'avaient apportées les anarchistes nous étaient utiles aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure, beaucoup des questions qu'ont posées les anarchistes individualistes au début du siècle sur l'amour libre, sur l'existence de ce qui n'était pas formulé à cette époque-là, mais ce qu'aujourd'hui on appelle l'intersectionnalité, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir des groupes qui sont à l'intersection de différentes oppressions. Eh bien, les anarchistes ont été les premiers à mettre ça en valeur et à participer aux luttes de ces minorités-là. Bon, il y aurait 1500 exemples à donner, moi je le raconte dans le documentaire, mais et parfois, même en participant à Nuit Debout à Paris, je me rendais compte que on continuait parfois de se poser des questions qui avaient déjà trouvé des réponses dans le passé. Et cette absence de mémoire qui a été voulue chercher, elle a justement pour but parfois de nous donner l'impression de patiner et de faire du surplace au lieu d'avancer. Voilà. Et donc ça, alors évidemment, c'est aussi bien de reformuler des questions aujourd'hui. Ça a vraiment du sens, mais de connaître l'histoire des révolutionnaires qui ont réfléchi à des questions sur l'horizontalité de la forme d'organisation, sur les droits des individus, sur je sais pas quoi, ben ça nous fait gagner du temps aujourd'hui, hein.
On va peut-être directement passer à une question un peu compliquée, c'est-à-dire le troisième volet.
Oui, tu en as parlé tout à l'heure du troisième volet. Donc, les deux premiers volets de ton film s'arrêtent au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, si je ne m'abuse. Et tu as écrit une suite qui pour le moment, n'a pas trouvé diffuseur. Est-ce que tu peux nous expliquer ?
Alors, c'est pas une question compliquée. C'est un documentaire en trois épisodes. Le premier épisode s'appelle La volupté de la destruction. C'est la naissance du mouvement anarchiste. Le deuxième épisode montre l'importance de l'anarchisme dans les grandes révolutions du XXe siècle, qui s'appelle La mémoire des vaincus. Et évidemment, il y a un troisième épisode qui s'appelle Les réseaux de la colère, qui va de 1945 à 2001. Ce documentaire, moi, quand j'ai fini les deux premiers, je me suis dit, dans la foulée des deux premiers, je fais le troisième. Et donc, j'ai fait ce qu'on appelle un ours du troisième épisode. C'est-à-dire que c'est une sorte de bout à bout. Les entretiens sont montés parce que j'avais fait mes questions à tous les intervenants sur l'ensemble de la période. Et j'ai rassemblé des archives. Maintenant, c'est un documentaire qui est sur le banc de montage encore, qui fait 3h30, dans lequel il y a beaucoup, il y a peut-être trop, mais moi qui étais encore en travail. Bon. Ce qui s'est passé, c'est quand j'ai fini les deux premiers épisodes, on a eu donc la question du troisième épisode s'est posée en fait tout du long de la fabrication de ces deux épisodes avec Arte. Et Arte m'avait dit, on verra quand tu auras terminé les deux premiers épisodes. J'ai terminé les deux premiers épisodes et à ce moment-là, pendant pratiquement un an et demi, je n'ai plus eu de réponse sur l'histoire du troisième épisode. Et il y a une quinzaine de jours, il m'a été officiellement dit, sans aucune motivation de ça, que ce troisième épisode ne se ferait pas avec Arte, ne serait pas diffusé sur Arte. C'est la première fois dans l'histoire que Arte fait une histoire qu'ils arrêtent à un moment. Or, ce documentaire a été diffusé sur Arte, a fait une très bonne audience, il a établi un des records en termes de replay, c'est très intéressant, je le dis, sans rentrer dans le détail, ce qui veut dire qu'en fait, on a le public moyen d'Arte qui a regardé l'émission à la télévision, mais le public moyen d'Arte, il a entre 60 et 65 ans d'âge moyen. En revanche, en replay, c'est autour de 30 ans. Ce qui veut dire que, et Arte cherche à rajeunir son audience, ce qui veut dire que il y a eu beaucoup de jeunes qui sont venus regarder, enfin de jeunes, de moins de 40 ans.
30 ans, c'est
moins de 40 ans. Beaucoup de jeunes qui sont venus regarder. Donc il a tous les arguments pour que ce troisième épisode se fasse. Et évidemment, il y a eu beaucoup d'intérêt pour ce troisième épisode. Et donc il m'a officiellement dit non. Alors moi, je peux avoir que des supputations. Je ne sais pas pourquoi, puisque il m'a jamais été donné de réponse. J'en ai évidemment discuté, surdiscuté. Plein de gens à Arte eux-mêmes me demandent mais pourquoi est-ce qu'on fait pas ce troisième épisode et je ne sais pas pourquoi.
Ils ont pu voir l'ours en question.
J'ai montré des extraits. Évidemment, j'ai même écrit un dossier de 70 pages parce qu'on m'avait. J'avais d'abord
long,
fait un dossier.
Non,
j'avais d'abord fait un dossier court. J'ai fait un dossier de 70 pages expliquant tout ça, racontant évidemment parce que ce qu'il faut savoir c'est que de manière un petit peu méconnue, dans la troisième période, l'histoire de l'anarchisme ne s'est évidemment pas arrêtée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. On connaît évidemment l'importance et le retour de l'anarchisme sur le devant de la scène au moment de 68. On sait l'importance qu'il a eu dans le domaine culturel à travers le punk, mais il y a tout un ensemble de mouvements sociaux et révolutionnaires dans lesquels des anarchistes sont à la manœuvre et en première ligne, qu'on méconnaît et qui sont fondamentaux de redécouvrir aujourd'hui. C'est le cas dans la lutte des Tupamaros, par exemple, en Uruguay, au sein de la révolution sandiniste. C'est évidemment, se pose aussi la question du grand retour à la guérilla urbaine et à la lutte armée des années 70-80, sur laquelle en France on nous a raconté des mensonges en nous disant non, la France n'a pas eu de lutte armée. En 79, les trotskistes ont empêché le passage à la lutte armée de la jeunesse de 68, ce qui est évidemment faux, puisque la France a eu un passage à la lutte armée dès 77 à travers les collectifs autonomes et évidemment à travers le groupe qui est le plus connu aujourd'hui, mais il y en avait d'autres, qui est Action Directe, avec toutes les questions que ça pose, et dont on trouve des équivalents dans le monde entier, que ce sont les Hungry Brigades en Angleterre, le mouvement Tupamaros West-Berlin en Allemagne, le mouvement du 2 juin, aux États-Unis, le Weather Underground, etc. Et donc, on revisite aussi, par le prisme de cette histoire de l'anarchisme, cette histoire des années 70-80, on redécouvre le rôle de ce mouvement autonome et quelle est sa relation d'ailleurs avec l'anarchisme, qui est très intéressant aujourd'hui parce que on a des oppositions stériles dans beaucoup des manifestations qu'on a entre les autonomes, les anarchistes, au sein du mouvement anarchiste organisé, au sein des anarchistes non organisés, au sein même d'un certain nombre de groupes gauchistes, qui parfois même ne disent pas leur nom. L'intérêt, c'est de retrouver, grâce à une histoire longue de l'anarchisme, de montrer que l'anarchisme, il se définit d'abord par un ensemble de pratiques, par des concepts qui sont communs, des principes qui sont communs. Et donc, on arrive à voir que cette histoire de l'anarchisme, elle dure et elle s'exprimait même à nuit debout, parfois sans dire son nom. Ou on peut la retrouver d'une certaine manière aussi dans les écrits du comité invisible.
Alors justement à ce propos, je me pose la question moi de ta définition de ce que sont les anarchistes, en tout cas parce que j'ai l'impression que tu parlais tout à l'heure de Action Directe
ou de la RAF lors de la présentation du premier volet du film, qui sont absolument
des gens qui se définissent comme marxistes,
enfin
clairement. Ouais. Alors, la définition de l'anarchisme, alors elle est compliquée, mais enfin,
mais celle que toi tu utilises aussi pour.
Moi, celle que j'utilise, c'est celle. Je me base sur ce qui a été dit à l'origine. D'abord, c'est une forme de socialisme ou de communisme anti-autoritaire. Donc, c'est à la fois qui ne reconnaît pas le rôle du parti ni la dictature du prolétariat et qui, sur un mode horizontal, dans la lutte et par la lutte, pense que c'est l'émancipation pourra se faire. Et donc, le triomphe d'une forme de communisme au lendemain de la Révolution, pour faire vraiment super vite. Maintenant, la difficulté qui concerne vraiment la troisième partie, c'est effectivement celle de qu'est-ce qui est anarchiste et qu'est-ce qui ne l'est pas. On a effectivement un problème dans cette deuxième partie du XXe siècle, c'est que on a des gens qui vont se dire anarchistes qui ne le sont pas. Donc on va avoir l'anarchisme de droite, on va avoir les libéraux libertaires. Et ça, c'est un phénomène qui est daté, qui apparaît à la fin des années 60, quand l'anarchisme reprend le devant de la scène avec ses atours séducteurs à ce moment-là. Mais beaucoup de gens se disent anarchistes. Donc on va avoir Sartre qui va se dire anarchiste, qui va dire si on relit toutes mes œuvres, j'ai été anarchiste. Mais on va avoir aussi, on le sait peu, Jean-Marie Le Pen qui fait son mémoire sur l'anarchisme et a même des tendresses pour une forme d'anarchisme individualiste dans ce mémoire-là, son mémoire de fin d'études. Il faut aussi démasquer en quelque sorte cette fausse utilisation des anarchistes, de l'anarchisme comme masque en réalité qui cache, disons, des pensées autoritaires. De l'autre côté, on va avoir un mouvement anarchiste organisé, mais qui n'a plus vraiment sens d'influence, et qui se replie, se recroqueville sur son passé. Donc là, c'est vraiment les organisations anarchistes, disons, plus traditionnelles qu'on peut connaître en France, et c'est assez vrai pour la Fédération anarchiste. Et puis, on va avoir ce que Thomas Ibanez appelle un anarchisme hors les murs, ou un anarchisme hétérodoxe, dit Daniel Colson, c'est-à-dire des gens qui ont des pratiques anarchistes, qui parfois eux-mêmes ne le savent pas, mais sont en tout point anarchistes, mais ne le savent pas. Et là, il faut aller les retrouver. Alors, par exemple, et puis enfin, dernier point, il y a ceux que l'État appelle anarchistes pour les criminaliser. Alors là, c'est le cas de la RAF. La RAF, les affiches, les placards qui sont mis dans les douanes et partout, c'est contre la bande Abadère, ce sont les dangereux, nous recherchons ces dangereux anarchistes. Et une question est posée par le Spiegel à Meinhof sur le fait de savoir si oui ou non la RAF est anarchiste. Et quelle est la différence entre la RAF et les anarchistes? Et Meinhof dit, vis-à-vis du Spiegel, nous n'en avons aucune. Les débats que nous pouvons avoir en interne, nous les gardons pour nous à l'intérieur du mouvement ouvrier. Bon, et évidemment, ensuite, elle dit que la manière de dire anarchiste, c'est une façon pour disqualifier des organisations, et qu'elle, elle répète son marxisme-léninisme. Bon, alors, évidemment, c'est aussi tout un travail de définition qui est fait là, mais d'ailleurs dans les deux épisodes d'avant, de définition, de classement, qui peut être parfois un peu lui-même policier, pour essayer de définir qu'est-ce qui est anarchisme et de trouver, de faire comme un jeu de piste, d'essayer de retrouver où est l'anarchisme. C'est le cas par exemple de l'EZLN, donc l'armée de libération zapatiste, hein, et du sous-commandant Marcos. Donc l'EZLN se disait marxiste-léniniste à son origine, mais sous l'influence des populations indiennes au Mexique, se réinspirant des frères Flores Magón, de ce qui avait été fait pendant la révolution mexicaine, eh bien, ils ont matiné, voire beaucoup plus, immergé le marxisme-léninisme des quelques membres de l'EZLN pour en faire un grand mouvement populaire et libertaire qui fonctionne totalement sur la forme de l'horizontalité et en lien du local à l'international. Enfin, je ne vais pas rentrer, le fonctionnement des caracoles, l'importance de l'éducation populaire, etc. Pas d'avant-garde éclairée. Vous savez que le sous-commandant Marcos, par exemple, s'appelle sous-commandant puisque justement il ne commande pas. Il ne rejette la prise du pouvoir, hein, le sous-commandant Marcos disait nous ne voulons pas le pouvoir, nous voulons pouvoir. Il n'était que le porte-parole des communautés indiennes, bon, voilà, etc. Donc voilà, il faut chercher les pistes là-dedans. Évidemment, moi je travaille encore là-dessus, donc je dois terminer ce film et tout sera plus clair. Mais c'est ça. Et je pense que ce qui l'anarchisme, tant qu'il était, tant qu'on parlait des faits divers du début du siècle et tant que c'était de l'anarchisme en noir et blanc, avec son côté folklorique, ces joyeux anarchistes à moustache qui faisaient sauter des bombes, mais tout ça est bien loin, eh bien, ça pouvait passer à la télévision. Dès qu'on est beaucoup plus proche de nous et que on se met à parler de la société telle qu'elle est et comme elle va, et là, il n'y a pas eu de rupture de la Deuxième Guerre mondiale vis-à-vis de la société dont on parle dans le troisième épisode, eh bien, ça, c'est beaucoup plus problématique et l'anarchisme refait à nouveau peur.
Et justement, par rapport à la position d'Arte, est-ce que Arte, je connais pas bien sa direction, mais est-ce qu'on pourrait pas considérer qu'elle peut être influencée un peu par cette espèce de vaste période antiterroriste depuis les années 80? Il y a eu des dizaines et des dizaines de lois antiterroristes. Les anarchistes, ou en tout cas certaines branches, notamment depuis les années 2000, les anarcho-dits autonomes, sont clairement considérés comme faisant partie de la frange terroriste à l'échelle nationale. Est-ce que derrière, il y aurait pas un truc un peu politique? Alors peut-être que t'as pas envie d'en parler, ou peut-être que si, je sais
non,
pas,
non,
c'est quand même étrange.
Personne n'entend Arte ici. Hein.
C'est quand même étrange que, particulièrement quand tu vas parler probablement d'une certaine frange de l'anarchisme à l'échelle contemporaine et ultra contemporaine jusqu'en 2001, donc peut-être même jusqu'à des contre-sommets par exemple, là il y a un point de rupture du côté d'Arte.
Alors moi là, sur ça, je suis obligé d'être précis, c'est-à-dire qu'on m'a rien dit, donc ouais. Je peux pas dire on m'a dit quelque chose. La chose que je peux dire, c'est analyser, ce qu'est le phénomène de censure dans les sociétés démocratiques, qui d'ailleurs n'a rien à envier parfois aux au système de censure, disons, des grands systèmes autoritaires, mais qui fonctionnent d'une manière différente. Moi, j'ai vécu à Cuba, par exemple, je sais comment ça fonctionnait à Cuba. À Cuba, on finissait un travail, pour lequel d'ailleurs les gens sont payés pour être réalisateurs, et ensuite ils passent devant un comité de censure. Et le comité de censure dit oui ou non et motive sa demande. En France, c'est pas du tout comme ça. On va vous expliquer que y a pas de budget. On va vous expliquer que pour des raisons artistiques, vous rentrez pas dans la ligne éditoriale. On va vous expliquer mille et une choses. Alors là, ça n'a pas été le cas, j'ai pas eu de discussion là-dessus. Mais on va vous expliquer mille et une choses qui font que votre projet, bah, finalement, il va pas se faire. Alors, ce qui permet de noyer dans la masse des projets qui méritent de se faire, dans la masse des projets qui, effectivement, sont branlants, sont pas forcément bien faits, sont peut-être un petit peu trop gros par rapport à la personne qui voudrait les porter. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, de disqualifier un projet au titre que il se fait pas, mais après tout parce qu'il faut bien faire des choix aussi. Bon, mais dans ne pas choisir, c'est aussi une manière de choisir, et donc là ce qui est intéressant, c'est que on a eu deux premiers épisodes, donc on a considéré que l'histoire de l'anarchisme était intéressante sur ces deux premiers épisodes, mais à ce moment, mais il y a un problème sur le troisième,
sur lesquels il n'y a pas eu du tout de censure les deux premiers épisodes.
Après, on a eu des discussions et tout, mais il n'y a pas, il y a pas de censure. Mais encore une fois, de toute façon, la censure dans nos sociétés, elle se présente pas de cette manière-là.
Mmh. Oui, mais tu vois, tu le sens quand on essaie d'orienter ton propos.
Oui, mais moi, je travaille dans la production, donc je sais que et dans la réalisation, mais il y a pas, la censure ne se manifeste jamais de cette manière-là. Mmh. Vous le voyez bien d'ailleurs dans les journaux de télévision, on n'explique jamais qu'on ne veut pas entendre une opinion, à part quand on parle de Dieudonné, Soral et je sais pas quoi. Mais sinon, on vous explique jamais que telle opinion est interdite. Mais c'est simplement qu'on n'invite jamais les gens. Voilà. Il y a qu'à regarder C'est dans l'air, qui est une émission normalement démocratique. Bah, vous voyez qu'il y a des courants de pensée qui ne sont jamais représentés, même si pourtant ils sont majoritaires parfois. Voilà.
J'ai une toute dernière question, c'est toujours au sujet du futur de ce troisième épisode. En quoi t'es lié à Arte pour pouvoir éventuellement le vendre à d'autres chaînes ou le sortir par tes propres moyens ?
Alors la grande particularité là pendant un an et demi, c'est que Arte est coproducteur du troisième épisode. Donc moi j'ai eu la possibilité à un moment de faire le documentaire avec une autre chaîne de télévision. Et le documentaire a été bloqué par Arte en disant non, nous sommes coproducteurs, donc c'est nous, si nous le diffusons, c'est nous qui allons le diffuser. Et bon, ben ça c'est des désaccords au sein des ce qu'on appelle des unités ou des organisations à Arte, c'est-à-dire que il y a le désir de la part de l'administration d'être coproducteur, mais en même temps, l'antenne, ce qu'on appelle l'antenne, ben, ne veut pas le diffuser. Donc, je me suis retrouvé un peu bloqué comme ça, c'est-à-dire que je pouvais le faire avec une autre chaîne de télévision, la chaîne parlementaire, pour ne pas la nommer.
Donc, normal.
C'est assez drôle. Et qui d'ailleurs a diffusé les deux premiers épisodes. Et donc, j'ai eu un refus de la part de mon coproducteur, qui a expliqué que non. Si ce serait pas, il allait pas passer sur LCP. Voilà. Donc aujourd'hui, moi je vais en train d'essayer de voir comment le faire autrement, en dehors. On va voir si on fait un je sais pas quoi, Kiss Bank ou ce genre de truc. Je peux inviter les gens qui nous écoutent à envoyer éventuellement un petit mail, non pas hargneux, mais en disant qu'est-ce qui se passe avec ce troisième épisode à Arte, et nous on veut le voir, sans faire un mail militant, mais il y a les contacts d'Arte, je crois, sur la page web, et de dire nous on aimerait bien le voir. J'ai vu que quelqu'un avait tweeté ça aujourd'hui, par exemple, j'ai trouvé ça sympa. On verra s'il y aura des réponses, mais voilà, depuis 15 jours, je sais en tout cas que ça ne va pas se faire avec Arte. Moi, il est le film est pratiquement fini sur son fond. Il reste encore ce travail d'archives à assembler, et je vais le faire parce que c'est un peu ça fait 6 ans que je travaille dessus. Moi, j'explique à ma fille qu'il faut toujours terminer les choses qu'on a commencées. Je vais me l'appliquer à moi-même d'abord, et puis j'avais envie que Arte se l'applique aussi.
C'est pas un peu autoritaire de dire ça.
Non, non, mais après, il y a Chomsky qui fait toute une théorie de l'autorité légitime et illégitime. Là-dessus, elle est légitime. Voilà, puis de toute façon, si elle ne veut pas le terminer, de toute façon, elle ne le termine pas. Hein. Je ne la bats pas. Voilà, bon, elle ne le termine pas. Mais je voudrais lui expliquer que c'est bien d'essayer de terminer quelque chose qu'on a commencé. Quoi.
Il faut expliquer ça à Arte, du coup.
Voilà.
Mais merci beaucoup, Tancred, d'être
merci
venu.
Merci à vous.
On va te libérer parce qu'il faut vite que tu rejoignes la MJC, mon plaisir, pour discuter avec le public, on imagine, nombreux qui est venu assister à la projection ce soir.
Voilà, et soutenez jamais. Mais sans toi aussi et les familles qui dorment dehors sur la Croix-Rousse et ailleurs à Lyon, ils ont vraiment besoin d'une mobilisation. Et c'est vrai que si tout le monde s'y met, ce problème-là va être réglé très rapidement. Alors que si c'est encore les quelques militants qui sont là-dessus, ça va traîner. Et la situation de ces familles est quand même intenable. Vous imaginez les familles qui courent toute la journée sans savoir où elles vont dormir le soir, alors que en une petite mobilisation des parents, des écoles, c'est quand même les copains et les copines des gamins qui sont dans les écoles. Donc on peut pas laisser leurs parents et les gamins dormir dans des tentes dans les parcs ou sous les ponts et aller le lendemain à l'école. Donc il suffit d'une petite mobilisation pendant les deux prochaines semaines et ces familles seront logées et voilà.
Oui, on rappelle d'ailleurs qu'il y a une réunion de coordination mardi à l'université avec notamment le collectif Jamais sans toi
et en RESF, tous les collectifs
Agir Migrants, le collectif des étudiants étrangers. Donc c'est à 19h à l'Amphicé à Bordeaux.
Il y a un repas à 19h et l'AG sera à 20h-20h30.
Et de notre côté, on passe à l'agenda ?
Eh ben non, puisque j'ai oublié de prendre mon ordinateur.
Eh ben du coup, on arrête, puisqu'on est déjà très à la bourre.
Oui, on est déjà très en retard. Pour faire plaisir à Novembre Libertaire, il y a quand même encore quelques manifestations. Il faut que vous alliez voir sur Internet et les réseaux sociaux.
Rébellion, surtout.
Et sur Rébellion, surtout. Et samedi soir, c'est la soirée clôture, qui est un grand concert dans un lieu auquel vous pouvez accéder via un mail qui vous indiquera l'adresse et ça va être super, il y a plein de groupes de musique et en plus les bénéfices de la soirée iront à plein d'associations qui récoltent des fonds pour des bonnes causes, notamment l'anti-rep, soutien justement aux migrants, etc., etc., etc. Et on va vous laisser là-dessus. Et puis on va mettre les bandes 24-24 de Radio Canu.
À lundi prochain.
À lundi prochain.
Au revoir.